Bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 10h01 à la pendule de Radio Canu et comme tous les dimanches de 10h à midi, en direct à nouveau, c'est l'émission Musique, etc. qui débute. Musique, etc. une émission musicale de Radio Canu. J'accueille dans la première partie de l'émission, le groupe Digitipus in Nazu. Donc il y a dans le studio 3 des 4 membres. De ma gauche à ma droite, il y a Arnaud le bassiste, il y a Bertrand le batteur et Florent le guitariste. Et donc il y a un absent qui est Xavier le chanteur. Donc Digitipus in Nazu, bonjour et bienvenue à Radio Canu.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
On va écouter. Donc il y a un album à sortir, à noter. Vous étiez déjà venu en 2017, mais peut-être faire un petit historique de Digitipus in Nazu. Parce que l'histoire, il y a une histoire un peu particulière. Vous avez commencé dans les années 90. Vous êtes reformé. Parlez un peu de tout ça.
C'est ça, donc Digitipus, c'est une histoire qui date du tout début des années 90, où avec donc Xavier qui est resté à Paris ce matin avec toutes ces petites histoires de déplacement et choses un peu compliquées en ce moment. Et donc on a créé Digitipus in Nazu. Et Digitipus in Nazu, en quelques années, est devenu un groupe qui a réalisé des concerts sur la région lyonnaise notamment. Avec donc Arnaud à la basse et puis Bertrand à la batterie. Et puis au milieu des années 90, chacun a continué sa vie dans différents domaines, sa vie professionnelle, et donc on s'est séparés. Et on s'est retrouvés en 2013, donc 20 ans après. Et en 2013, l'aventure a redémarré avec le même line-up que lors de la création. Et on a à ce moment-là écrit notre premier album, L'éternité, la pluie.
Ensuite, il y a eu Porno
Capital. Donc Porno Capital avec une line-up qui a un peu changé, puisqu'on a eu Bertrand qui avait déjà plusieurs projets de groupe, nous a laissé continuer avec deux nouveaux batteurs, Eric et puis Régis. Et on a sorti donc Porno Capital en 2017. Voilà.
D'accord. Et donc l'album à sortir va s'appeler ?
Alors l'album à sortir, c'est Malibu Sheba Wasabi Bleu. Cet album, il est déjà sorti en fait en février 2020, juste avant que le Covid nous rattrape tous. Et on l'avait sorti en format numérique uniquement, avec un projet plus tard de le sortir en CD. Et on a eu une rencontre avec un label à la fin du printemps 2020, qui nous a proposé un contrat de distribution de promotion et nous permettre de ressortir l'album, mais cette fois-ci avec une version aussi CD. Et la date de sortie officielle de cet album, c'est le 29 janvier 2021. Voilà pour Malibu, chez Wasabi Bleu.
Le label, c'est MEO Music. Voilà.
Le mieux, c'est peut-être d'envoyer un premier morceau de Digitipus in Nazu. Qu'est-ce qu'on va écouter donc sur cet album à sortir ?
Eh bien, Soldat, le premier titre en fait de l'album, Soldat.
On écoute.
La guerre et que nous ont abondu du rêve.
Digitipus Innaso sur Radio Canu avec le morceau Soldat, Soldat. Donc ça, c'est extrait de l'album à sortir. On répète le titre de l'album, peut-être.
Malibu, Sheba, Wasabi Bleu.
Voilà, donc là, vous serez les seuls, vous serez bien référencés avec ce titre d'album.
C'est ça, on applique les techniques modernes que Google nous demande, référencement, tout ça, les mots-clés, voilà.
Et puis donc, Soldat, Soldat, une chanson qui est dans votre univers, qui, on peut dire quand même, c'est un rock en français, mais quand même très militant, dans tous les albums, hein, dans... L'éternité, la pluie, Porno Capital, puis ce titre qu'on vient d'entendre, il y a un propos militant, peut-on le dire? Oui, bah si, bah, moi je le dis, mais je ne sais pas ce que vous en pensez.
Arnaud le militant.
Non, mais tu as tout à fait raison.
Oui, tu as tout à fait raison. En fait, bon, Xavier est pas là pour parler de son écriture de texte, mais c'est sûr qu'il allie l'imaginaire et des messages militants, effectivement, par rapport à la société, l'environnement. Et il y a plusieurs niveaux de lecture, hein, dans son écriture. D'ailleurs, ce qui est important, c'est de lire les textes pour bien voir un peu l'univers qui se dégage. Parce qu'à l'écoute, on comprend, il joue avec la sonorité des mots, mais le sens vraiment un peu caché du texte, on le découvre plus avec plusieurs écoutes ou par la lecture. Donc ça lie un peu ce travail entre chanson et poésie, en fait. Et comme toute démarche artistique, des messages un peu, voilà, sa vision de la société, enfin la nôtre, qu'on partage, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rêver et faire meilleur dans notre société. Voilà.
Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est des textes en français. Je l'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui font ce type de musique, qui le font en anglais, en me disant que ça, comme argument, que c'est la langue du rock, et qu'il n'y a que l'anglais qui sonne finalement. Là, je trouve, je l'avais dit lors de leur émission, c'est très courageux de le faire en français. Et en plus, c'est super bien écrit, et en fait, c'est la preuve aussi que le français peut sonner très bien avec cette musique-là, avec un rock qui avance et qui est énergique, quoi.
C'est un vrai parti pris, parce qu'on a la conviction que la langue française, et c'est un peu une fin inexplorable, enfin inexplorée. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire des associations de mots. Et l'avantage de la poésie, mariée à des réalités telles que les a expliquées Arnaud, ça permet de faire passer des messages. Et la musique rock, enfin pour nous, n'est pas réservée à la langue anglaise. Voilà, dans beaucoup de langues, on écoutait avant le début de l'émission un titre en japonais. Et ben quand les choses sont posées de manière efficace et avec engagement, ça sonne, quoi. Voilà. Donc.
Et c'est vrai que vous avez raison de souligner, c'est qu'on est dans un axe quand même très poétique aussi dans les textes.
C'est ça. On cherche, enfin notamment Xavier cherche toujours à marier des choses qui, pris individuellement, ont un sens basique, j'allais dire, le sens premier du mot, mais associé avec un autre terme. On prend soldat, soda, on voit bien qu'il y a une opposition entre ces deux termes. Soldat, ben, on sait ce que c'est, ça peut faire référence à des choses sombres. Et soda, c'est le côté brillant, un peu pop-corn. Et le mélange des deux, ben, fait ce morceau où on a un riff rock assez acide et avec une basse qui est beaucoup plus dansante. C'est ça notre mariage, c'est ça Digitipus Innaso. C'est toujours cette recherche de mélange des genres. Voilà.
Je vous propose qu'on poursuive en écoutant un deuxième morceau. Qu'est-ce qu'on va écouter, Digitipus Innaso?
Donc, La Verte Vallée.
Monter
Digitipus Inazu avec le morceau La Verte Vallée. Qui se lance pour évoquer ce morceau? On peut parler de, sur un plan musical et aussi sur le plan du texte, comme on a fait pour la précédente.
La Verte Vallée, on voit bien que c'est un titre, qui a deux grandes parties. On a un morceau qui est très dynamique au départ, sur une base assez punk, hein, ça fait partie un peu aussi de nos influences, et on vient casser un peu cette dynamique-là aux deux tiers du titre, en partant sur aussi nos influences favorites, côté un peu bass slap, côté un peu funk, on aime bien ce mariage-là. Et puis ensuite, Arnaud va en parler, c'est un petit peu le Manitou du son aussi au niveau du groupe, et du rajout d'arrangement, et il nous a fait pas mal de petites sonorités étonnantes sur ce titre. Je te donne la parole.
Ouais, donc parce qu'effectivement quand on compose, on compose à quatre, voilà, avec les instruments basse, guitare, batterie. Ensuite, on a commencé le mixage, et puis pendant ce mixage, selon l'inspiration, effectivement, j'ai rajouté des arrangements claviers sur pratiquement tous les titres, hein, sauf un qui est Chéri 6, parce que bon, il n'y avait pas forcément besoin. Enfin, ça dépend vraiment comment je ressens ça. Je le partage évidemment, et si c'est partagé par tous, ben, on garde. Hein. Donc, effectivement, là, il y a des sons d'orgue et de synthé. Ouais, qui donne un côté un peu planant, parce que c'est vrai que pendant la deuxième partie, on est plus dans un. Il y a à la fois cette énergie liée à la rythmique, basse-batterie, qui est un peu fusion, mais aussi cette voix et ces claviers assez planants, qui temporisent l'ambiance, et qui nous conduit sur autre chose. Hein. Et puis la guitare funk aussi, donc tout ça, il y a à la fois énergie, et ambiance plus planante qui se dégage sur cette deuxième partie. Mais on trouvait que ça c'est vrai que ça s'enchaînait assez bien par rapport au riff, enfin la première partie qui est beaucoup plus rock et punk. Voilà, c'est, puis comme il y a quand même des sons qui perdurent, hein, le son de batterie c'est toujours le même, hein, on n'a pas différencié ça, on a toujours cette même énergie, donc ça nous paraissait intéressant.
Après, tu l'as un peu évoqué au début de ton intervention, mais peut-être parler donc de la composition, comment naissent les morceaux, comment vous les mettez en place, comment vous travaillez, Digitipus Inazu, pour faire naître les morceaux, comment naissent les morceaux, vous partez de quoi, et comment vous mettez tout ça en place, quoi.
Bah souvent, c'est Florent qui envoie ses riffs de guitare. Et puis avec Arnaud et moi, on essaye de se poser dessus, de chercher ce qui pourrait bien fonctionner. Et puis voilà. Et Xavier pose son chant. Enfin, ça se fait assez naturellement, quoi. C'est surtout Florent qui ramène ses riffs de guitare. Et après, on essaye de trouver les parties tous ensemble, quoi.
Après, je crois que c'est un peu compliqué parce que le chanteur est à Paris, donc pour les répètes, si vous voulez en parler, dévoiler un peu la vie secrète du groupe.
La vie secrète du groupe, alors. On va sortir une phrase qui met dans l'air du temps, comment faire d'une contrainte une opportunité. On va dire que le fait que le groupe soit un petit peu éclaté, et on a connu pire, hein, puisqu'il y a une époque, moi j'étais en Chine, ouais. Voilà, Xavier était à Paris et Arnaud et Bertrand à Lyon. Mais c'est pas les frontières qui nous empêchaient de composer, puisque on s'envoyait les riffs et les parties que les uns les autres travaillaient avec nos téléphones portables. Et puis après, on se retrouvait en studio quand je revenais en France pour mettre ça à plat, quoi.
Bah, Porno Capital est né comme ça, je crois.
C'est L'Éternité d'Appli qui est né comme ça. Voilà.
C'est le premier album.
Le premier album, c'est ça, voilà. Donc, oui, je ne sais plus quelle était la question, mais en fait, Xavier, lui, il n'est pas présent tout le temps, donc du coup, on s'organise deux à trois fois, enfin, toutes les deux ou trois semaines pour pouvoir répéter. Mais entre-temps, on continue ce mode d'emploi, on s'envoie des parties.
Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Vous servez d'un outil informatique pour.
C'est ça, mais de manière vraiment basique. Hein. On n'est pas connectés les uns aux autres avec des appareils numériques, non, c'est par téléphone basiquement, et puis après on se retrouve en vrai, en répète, pour mettre tout ça en forme. On n'a pas finalement besoin d'énormément de temps passé ensemble pour reconstruire. Je pense qu'on se connaît bien depuis longtemps.
Ah oui, je pense. Et par contre, pour le texte et la ligne mélodique de la voix, c'est Xavier, donc le chanteur, intervient à la fin, c'est ça ?
Pas forcément.
Non.
Il travaille un peu aussi avec Florent. D'ailleurs, Florent lui envoie d'abord ses maquettes de guitare. Ils mettent au point ensemble un peu la, on va dire, par rapport à la nature du texte, les longueurs. Bon, après, ça se peaufine aussi en répète, mais il y a quand même un échange entre Xavier et Florent au tout début, et puis après, en répète, on voit ça à quatre. Et puis évidemment, les structures continuent à évoluer, mais il y a quand même déjà des choses un peu réfléchies avant d'arriver en répète.
Mais toujours avec l'idée que le groupe va renforcer les premières approches. C'est-à-dire, c'est jamais un système bloquant en disant on part là-dessus et puis on reste là-dessus. Au contraire, avec la qualité à la fois d'Arnaud et Bertrand, et on ne l'a pas souligné, mais cet album a été joué avec deux batteurs. Et donc Bertrand a de nouveau rejoint le groupe il n'y a que quelques mois, ce qui veut dire que sur Malibu, Sheba, Wasabi Bleu, on a Eric et Régis qui sont les deux batteurs de cet album.
Et de Porno Capital, ils étaient aussi sur Porno Capital.
À noter que Bertrand, la batterie, est le batteur historique.
Bertrand a rejoint le groupe en 90, quoi. Donc, ou 91, je sais plus. 91,
je sais même plus si tu étais majeur.
Non. On a parlé en antenne, mais à noter que Bertrand, pour ceux qui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le groupe, a été le batteur de Triste Cire aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il faut le annoter. Mais donc oui, mais je t'ai coupé.
Oui, non, je disais qu'en fait, c'est vraiment un travail qui, avec les années, s'enrichit des autres musiciens. On n'est pas du tout dans un mode bloquant. Au contraire, Arnaud envoie des morceaux aussi régulièrement. Hein, c'est pas que voilà, moi je suis pas le seul livreur de quelques riffs. Arnaud aussi est très très à la manœuvre aussi au niveau des compos. Et à noter que pour cet album. Alors, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou si on envoie un autre titre, mais pour le coup, celui-ci, on l'a fait 100% Digitipus, quoi. Voilà, enregistrement, mixage, mastering, 100%. On n'a pas fait appel cette fois-ci à un studio ou un ingé son.
On parlera de l'enregistrement un peu plus tard, peut-être. On peut ponctuer avec un autre titre, peut-être, de Digitipus et Naso.
Oui, donc voilà, Amsterdam, Quidam.
Digitipus et Naso.
Ou Quidam. Ça dépend comment on le prononce. Allez, c'est parti.
Un guide suprême, une expédition polaire, les esprits malins du menu fretin. Un nouvel épisode, le vieux dans la montagne, creusé des labyrinthes, la belle époque. Mon Dieu, j'ai tout essayé, l'alcool et les femmes, les matins pâles. Voler des mécaniques. Ma frégate s'est fracassée, le fleuve s'amuse, je sens que le sable monte. Continuons, continuez. Dans son ventre, je me réincarne. Au loin dans les astres, ils font ses lois. Pluton, longer les hôpitaux, le chant des cantines, les compagnons de l'aube. Tu m'avais montré le chemin, trouver ce magicien, celui qui revient de loin, dans les tubes. Lueur vagabonde, y a du monde dans les ruines pour visiter le vide automatique. Rouler des mécaniques. Tour de passe-passe, tout est programmé. On peut pas l'inverser, la combine. Franchir le Styx. Dans ce ventre, je me mets un cas. Au loin, dans les astres, les vents se voient. Je traverse le désert.
Digitipus in Lazu avec le titre
Amsterdam qui dame.
Donc vous voulez évoquer ce morceau qui figurera donc sur l'album à sortir, je le répète, il faut le répéter. Qui s'intitulera juste redire
ah l'album. Oui, alors Malibu, Sheba, Wasabi Bleu. Voilà. Donc un titre qu'on retrouve en fait sur un morceau qu'on passera tout à l'heure. Hein, qui expliquera un petit peu d'où vient ce titre.
Un peu énigmatique.
Oui, un peu énigmatique. Alors, disons que cet album a démarré. On a commencé son écriture donc quelques mois après la sortie de Porno Capital en 2017, donc début 2018. Et sur cette période, Xavier, dont je suis le porte-parole officiel ce matin, revenait d'un voyage d'une quinzaine de jours. Du côté de Los Angeles, et il a fait un tour sur la plage de Malibu, des choses comme ça. Et souvent, quand il revient de ses voyages, il s'inspire de ce qu'il a vu, ce qu'il a rencontré, des photos qu'il a prises pour commencer à écrire ses textes. Donc le mot Malibu de l'album vient de là. Sheba, c'est une référence à un royaume imaginaire, voilà, dans la mythologie. Wasabi, on connaît cette épice hein, asiatique, notamment japonaise, et bleu parce que le ciel est bleu. Et mis tout ça bout à bout, ça renvoie aussi à un imaginaire et conceptuel. Voilà, il y a un côté plaisir avec le côté Malibu et le côté bleu, et puis il y a ce côté un peu onirique, féerique, avec la partie Wasabi et la partie Sheba. Voilà. Donc c'est ça, Digitipus in Lazu. C'est des choses improbables qui se mélangent et que l'on essaye de structurer. Donc au niveau du groupe, on est là pour essayer de mettre les choses bien en place. Et Xavier, il est là pour démonter tout ça et le rendre et faire ce qu'on propose aujourd'hui dans cet album.
Ah, c'est d'autant plus intéressant que la musique est très cohérente, c'est très carré, et donc ça part dans des sphères un peu improbables.
C'est exactement ça, c'est exactement ça.
Et puis j'allais faire d'un point de vue, je le redis, mais vous êtes hyper bien référencé entre le nom du groupe et le nom de l'album. Là,
on a 40 ans d'avance, on ne savait pas, mais. Google n'existait pas, que déjà on avait fait ce travail un peu compliqué.
C'est une petite vanne.
Ouais, au Scrabble, on est hyper bon.
Et puis donc, on peut. Ouais, donc voilà, donc l'explication pour ce titre un peu énigmatique. Et donc pour la chanson qu'on vient d'écouter avec les auditeurs, vous voulez en parler ?
Oui, alors Amsterdam Quidam, c'est. Dedans, on retrouve vraiment, je crois, c'est un morceau qui est symbolique de toutes nos influences, parce que
oui, on peut parler des influences, mais je te laisse
de toutes nos influences, parce que bien sûr au niveau du groupe on a des influences communes. On est notre génération, on a été bercé par la new wave, notamment par le punk, qui nous a permis aussi à un moment donné de faire de la musique, hein, parce que ça s'ouvrait beaucoup à cette période là et après chaque membre du groupe a des influences plus ou moins marquées, qui sont plus côté funk pour les uns, plus côté peut-être parfois hard rock ou metal pour les autres. Nos morceaux, ça, je veux dire, viennent s'alimenter de toutes ces influences-là. Et dans Amsterdam Quidam, on a un titre où on retrouve un côté pop, un côté new wave, un côté aussi, j'allais dire, très français au niveau du chant, avec une voix bien posée, avec une voix qui nous renvoie à des chanteurs à texte français. On est tous on aime beaucoup par exemple Bachung, personne ne pense que Bachung fait de la variété, vous voyez, et pourtant ce qu'il est capable de faire en matière de rock et ce qu'il est capable de faire en matière de texte, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré aussi. Voilà, donc Amsterdam Quidam, c'est ce doux mélange de nos influences, voilà, je dirais, pour en parler de ce titre.
Et puis bon, peut-être pour rester sur les influences, faire un tour de table, savoir dans qui a baigné dans quoi.
Oula.
Bertrand le batteur, par exemple.
Dis-nous dans quoi tu baignes.
Enfin, musicalement, je parle.
Non, j'écoute du rock, hein, mais après, différents styles de rock. Ça peut être du punk. Enfin, là, ça me vient pas tout de suite, mais enfin bon, du punk, variété, enfin un petit peu de tout. Après, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la fusion, comme Rage Against the Machine, les Red Hot. C'est bien parce que Arnaud fait pas mal de slap. Et voilà, enfin, ouais, j'aime beaucoup la fusion, ouais. Parce que c'est très rythmé au niveau du chant et rythmiquement à la batterie. Enfin, il y a beaucoup de rythme. Et voilà. Après, Arnaud.
Comme disait Florent.
J'ai une question sur Rage Against the Machine. Ouais. J'avais lu un article, je ne suis pas batteur du tout, hein, mais il disait que la rythmique de Rage Against the Machine, le batteur, ça dégoûtait tous les autres batteurs. Est-ce que c'est vrai ou c'est un modèle ou, c'est tellement parfait.
Ouais, c'est très bien foutu. Ouais. Enfin, il est assez épuré dans son jeu, mais en même temps, quand il envoie, enfin, c'est parfait dans le style de musique et c'est très compliqué à reproduire ce qu'il fait parce que bon, voilà, il a son jeu et c'est assez impressionnant. Ouais. Quand il part en solo, on a l'impression que le solo est travaillé. Tout se marie bien et ouais, c'est une bonne influence ce batteur.
D'accord, j'avais lu. Et toi, Arnaud, donc le bassiste.
C'est vrai que moi j'ai découvert la basse avec à la fin des années 80. On va pas dire la fin, mais voilà par rapport à la New Wave. Hein, moi j'ai commencé à apprendre la basse en écoutant The Cure, puis quelques groupes pop, plus les Beatles, enfin des choses comme ça. Parce qu'en fait, moi je me suis mis à la basse, pas du tout. J'y avais pas forcément pensé. C'est que à l'origine des Digitipus, c'est Florent et Xavier quand ils étaient au lycée qui ont monté ce groupe. Et il jouait dans la chambre donc de mon frère, là, il répétait. Mon frère était au chant au clavier et Florent à la guitare. Puis un jour, je vois qu'il y a une basse qui arrive à la maison. Mon frère avait acheté une basse. Donc il pensait s'y mettre, parce qu'il avait quand même besoin d'une basse pour faire un groupe de rock. Puis en fait, je me suis mis comme ça. Je crois que j'avais 17 ans, j'ai commencé à pianoter ce truc. En plus, c'est bizarre, parce que je suis gaucher, et du coup, je joue en droitier, parce que je savais pas qu'il y avait les basses de gaucher. Donc voilà, et puis c'est plus pratique parce qu'on en trouve quand même plus des basses de droitier finalement. Donc je suis un gaucher qui joue avec comme un droitier, quoi.
Ah d'accord. Mais bon.
Et pourtant je fais tout à gauche, hein, sinon même au niveau politique. Mais non, là, je sais pas. Et du coup, c'est venu comme ça, mes influences musicales. Parce qu'avant, moi, j'étais très synthé, très new wave, Dépêche Mode, quand j'étais au lycée, au collège. AA, ma première cassette, c'est AA, Taken Me, là, je crois. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Et avec la basse, en fait, ça m'a ouvert sur d'autres influences qui, évidemment, plus rock, plus fusion aussi, parce qu'avec l'arrivée des Red Hot, moi, j'ai connu ça au début 90, je crois qu'ils... Ils étaient déjà des années 80, je crois, mais en France, ils ont vraiment cartonné à cette époque-là. Puis alors, après, tous les bassistes, évidemment, j'ai essayé d'écouter des Stanley Clark, enfin, dans le jazz fusion, en fait. Donc ça m'a ouvert à toute cette musique, en fait, l'instrument de la basse. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que je me rappelle que Hendrix, pour moi, c'était inaudible quand j'étais au lycée. Je pouvais pas écouter du Hendrix, quoi. Mais après, quand vous commencez à vous intéresser à un instrument et à voir les styles qui se jouent avec cet instrument, ça vous offre plein de choses. Hein. Mais après, du coup, les influences que j'écoute, c'est un peu compliqué de te répondre, parce qu'entre le rock, le funk, le metal et le jazz, parce que je joue aussi dans un orchestre de jazz, Mr Swing Big Band, un orchestre donc de la région lyonnaise. Et là, ça m'a ouvert le swing. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, ça dépend des moments, hein, la musique. Alors, il y a une musique peut-être que j'ai jamais travaillée, écoutée plus que ça, c'est le reggae. C'est pas que...
Pourtant, la basse, c'est...
Ouais, mais c'est un feeling que je pense que je ressens pas. C'est un feeling très particulier, un bassiste de reggae.
À droite, c'est pour ça.
Ouais, c'est pour ça, peut-être. Mais non, j'ai jamais pratiqué le reggae. Mais je me suis essayé à la soul musique, le funk, le rock, maintenant pas mal de jazz aussi. Et voilà. Mais après, il y a une référence quand même qui reste pour moi énorme au niveau maîtrise de pas mal de styles, c'est Prince.
Ah ouais.
Ça reste peut-être un des groupes où j'ai le plus de. Enfin, des compositeurs où j'ai le plus de disques et que j'écouterai toujours. Voilà.
Florent, le guitariste, tu veux.
Ben, je ne veux pas rajouter beaucoup de choses. Hein. Voilà, moi j'aime bien aussi. J'étais très. J'ai beaucoup appris avec Hendrix. Alors, non pas que je l'ai rencontré, mais voilà, en cherchant à travailler la guitare à sa manière. Et puis, avec beaucoup d'influence aussi du côté de Led Zeppelin, par exemple, avec ses guitaristes qui cherchent de la mélodie un petit peu décalée. J'aime beaucoup. Voilà.
On va revenir à Digitipusinazu. Je propose qu'on écoute un autre titre. Qu'est-ce qu'on va écouter de Digitipusinazu, extrait donc de l'album à sortir?
L'organe contraire.
Digitipusinazu.
Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire.
Digiti Pousse in Naso sur Radio Canum avec le titre
L'organe contraire.
Ma question qui revient comme une petite ritournelle énervante. Voulez-vous évoquer ce titre qu'on vient d'écouter en compagnie des auditeurs de Radio Canu?
Oui, alors c'est un peu énervant. Non, mais je pense qu'à ce stade, on pourrait parler des nouveaux morceaux qu'on est en train d'écrire.
Ah, bah, si tu veux.
Oui, parce qu'en fait, Digiti Pousse, ça s'arrête jamais.
Ah, oui, non, là, vous avez pris un rythme de croisière.
Oui, parce que je pense qu'on prend autant de plaisir à enregistrer un album et à le produire et ensuite à le sortir que dès à présent penser à la suite. Et voilà, donc on a déjà préparé à peu près 6 titres aujourd'hui. On est déjà quasiment à un demi-album. Et ce qui nous a un petit peu retardé là, c'est le fait de ne pas pouvoir répéter et pouvoir enregistrer. Mais on travaille sur quelque chose qui va nous amener, je crois, vers un quatrième album avec beaucoup de surprises au niveau musical. Mais donc, comme ce sont des surprises, j'en parle pas.
Et tout à l'heure, je t'avais un peu censuré, Florent, pour permettre d'écouter un morceau pour ponctuer l'émission, mais on n'a pas parlé du studio, l'enregistrement, comment vous avez travaillé.
Ah, pour... c'est Arnaud, là.
Donc en fait, on répète à la Bulle du Son, qui est un studio et local de répétition à Vez. Donc en fait, on a enregistré là-bas. En juillet 2018, on a fait deux sessions. Juillet 2018, et après décembre 2018, et en 2019, on a préparé le mix. Voilà. Et donc, on a enregistré en live. C'est-à-dire qu'on joue tous ensemble, sauf la voix, hein, sauf le chant, mais les trois musiciens jouent ensemble. Les amplis sont dans la même pièce. Donc, il faut un peu travailler pour pas que ça repisse dans les micros des différents instruments. Et on a pris cette matière. Alors au début, on voulait que ce soit plus un enregistrement pour travailler, avoir du recul sur les morceaux. Et puis finalement, comme ça sonnait pas mal, on s'est dit bon, on va essayer d'aller plus loin. Et on a plus peaufiné donc le travail de. On est allé un peu plus loin dans le travail évidemment de mixage. Et on en a profité. On s'est dit bon, on va faire 6 autres titres comme ça qu'on a fait en décembre. Donc voilà, on a enregistré live, avec en déportant du matériel et puis avec du matériel aussi qu'il y avait là-bas. Donc voilà, merci à la Bulle du Son. Et après, on a mixé dans mon studio. Hein. Voilà, comment s'est passé l'enregistrement.
Et vous l'avez vécu comment? C'était du plaisir, ça? Ou c'est un peu un passage obligé pour fixer les morceaux? Il y a des artistes qui me disent que c'est un peu un crève-cœur de fixer un morceau.
Bah, je sais pas, chacun a un avis. Moi, je trouve que c'est au contraire... l'enregistrement d'un titre, c'est une concrétisation, en fait. Donc il y a quand on enregistre, comme le dit Arnaud, on a 80% du morceau qui est là, quoi. Et après, ce qui est intéressant, ce qu'on aime faire aussi, c'est on prend du temps à écouter les titres une fois qu'on les a enregistrés pour aller chercher les subtilités qui vont faire qu'on passe d'un morceau en prise live à un titre album. Et donc pour nous c'est pas une contrainte, c'est un plaisir de le travailler. Et la décision qu'on a prise pour cet album, c'est que parce qu'Arnaud a acquis beaucoup de compétences aussi sur la prise de son, c'est de le faire par nous-mêmes de façon à mesurer un petit peu ce que nous on peut apporter sans une structure d'accompagnement. Peut-être que le prochain album sera intégralement réalisé par un producteur dans un studio, on ne sait pas, mais en tout cas c'était une belle expérience pour nous, on a beaucoup appris. Voilà, on a beaucoup appris sur le son, on a beaucoup appris sur la technique des morceaux, parce que le studio ça vous impose un travail de détail très, très important. Voilà. Donc c'est pas une contrainte, c'est un plaisir.
C'est-à-dire vous avez bien gardé les prises live que vous avez fait.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait ça. L'énergie des titres aussi.
C'est
quoi.
Ça. Et puis on avait pris une position de dire on voudrait que ça sonne un peu comme ces albums des années 70, quoi. Avec un son assez brut, moins basé sur la technique et la technologie numérique. On est beaucoup plus dans le rendu, comme on pouvait le faire il y a très longtemps maintenant. Voilà.
Après, Arnaud l'a dit, il a aussi rajouté des arrangements au niveau des claviers, c'est ça?
Alors ça, c'est pas forcément pensé lorsqu'on compose.
Ouais.
Par exemple, il y en avait beaucoup moins sur Porno Capital, quelques-uns sur Éternité de la pluie. Là, il y en a pratiquement sur tous les morceaux, mais il faut que ça apporte quelque chose. C'est un arrangement. Et il faut aussi qu'on puisse l'enlever, interpréter le morceau sans que ça... C'est un arrangement, c'est vraiment quelque chose qui vient embellir ou parachever un morceau. Mais c'est pas, enfin, à mon sens, quelque chose qu'il faut forcément avoir toujours dans l'interprétation. Parce qu'effectivement, en concert, on n'aura pas de claviériste. Encore après, est-ce qu'on utilise des systèmes de samples, de boucles déclenché par un musicien, j'en sais rien, mais en même temps, ces morceaux, je pense qu'ils peuvent aussi sonner sans arrangement. Et puis, c'est un autre spectacle. C'est autre chose. De toute façon, un bon morceau, vous pouvez le jouer avec une guitare sèche sur la plage et un chant. Hein. Enfin, bon, un morceau rock, c'est comme ça l'histoire de la musique rock. Donc voilà. Mais les arrangements, non, ils sont ça, c'est vraiment pas prémédité, hein, ça vient comme ça.
Ouais, puis c'est pas, le disque est pas du tout surarrangé, comme ça peut être.
Non, mais c'est même...
Il n'y a pas cette écurie-là, quoi.
C'est par exemple comme, des fois, comme il n'y avait qu'une guitare, histoire de même par rapport à la stéréophonie, augmenter un peu cette image stéréo, rajouter un orgue à droite, la guitare à gauche, avec les mêmes accords. Ça apporte, voilà, un enrichissement de l'écoute stéréo et du timbre aussi, du timbre du son. Mais c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire après, en concert, on verra.
Ouais, et puis Arnaud a aussi une caverne d'Ali Baba chez lui, avec des appareils, des orgues et autres produits qui ont bien vécu, qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, et ouais. Il prend aussi plaisir.
Ah oui, bah
en plus, il va les enregistrer et aller mixer dans des titres rock. Il y a ça aussi. Donc c'est tout ce goût-là aussi qu'on cherche.
Et puis il faut faire tourner le matos, hein, sinon ça tombe en panne. Hein.
Non, et puis ce qui est bien de le faire soi-même, c'est que t'as pas de date limite. Tu peux toujours retravailler le morceau, contrairement à un studio où bon bah t'as 15 jours de studio et il faut que tout soit bouclé au bout de 15 jours. Bon, après ça a les inconvénients aussi parce que tu t'arrives jamais à le terminer.
Ouais.
Mais bon, c'est quand même assez agréable de pouvoir faire ce que tu veux, quoi.
Je propose, vous voulez ajouter quelque chose, non? Je propose qu'on écoute un autre titre de Digitipus et Naso.
Alors là, c'est un titre, c'est Royal Bengal. Qui dénote un peu au niveau du son, vous allez voir. We'll be right back.
Digitipus Sinazu avec le titre
Royal Bengal.
Voilà, Royal Bengal, non, on l'évoque pas, vous avez pas envie. Non, c'est une blague.
Non, mais c'est vrai que c'est un titre qui sonne moins rock, hein, qui est plus dans le côté pop funk. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il vient d'abord d'une ligne de basse, ce titre. Voilà, grosse influence Jamiroquai, je dirais, à l'époque de Stuart Zander, je crois, le bassiste. Il m'a beaucoup influencé, lui. Et voilà, c'est du groove un peu dans ce style de musique, un peu acid jazz, funk. Et après, ben, d'une manière étonnante, Florent avec sa guitare apportant encore une autre ambiance. Toujours aussi une ambiance un peu planante à la fin, avec un solo qui est assez long. Voilà.
D'accord. On va se quitter. L'heure avance avec un dernier morceau, mais avant, on va faire votre communication un peu comme il faut. Pour ceux qui ont écouté cette émission, qui aiment la musique de Digitipus Sinazu, dire qu'il y a un album à sortir, mais qu'il y a d'autres albums qui sont déjà disponibles, qu'il y a un site, enfin dire voilà, oui, où on vous retrouve. Pour vous suivre, écouter votre musique, l'acheter, l'écouter.
On va faire un peu de com. Donc Digitipus Sinazu, vous pouvez retrouver donc toutes les infos du groupe sur le site internet digitipusinazu.com. Pour nous envoyer des messages, on a une adresse email digitipusinazu@gmail.com. Et puis effectivement, au niveau de l'actualité, donc l'album en CD sortira le 29 janvier. Il sera disponible dans un certain nombre de chaînes de magasins que je ne vais pas citer là, mais qui sont des...
Voilà, si,
des
grands, tu peux.
Je peux citer. Bon, on va trouver ça chez Cultura, la Fnac et dans les centres Leclerc. Alors essentiellement sur la région Rhône-Alpes, voilà, qu'on soit pour lancer l'affaire. On a commencé à travailler sur une mini tournée et donc j'en profite pour souhaiter beaucoup de courage en fait à tout le monde du spectacle, hein, des indépendants, des salles de concert et des bars musicaux qui sont en grande difficulté et qui ont beaucoup de difficultés actuellement pour programmer des tournées. Donc on est en contact avec un certain nombre, mais pour l'instant ils pensent plus à sauver leur business que pouvoir réaliser des programmations. Donc voilà, ils ont tout notre soutien et quand on aura des dates, on communiquera ça sur nos sites. Voilà, on a un nouveau clip qui est en cours là, qui sera porté par le titre Soldat Soda. Donc on n'a encore pas vu les premiers rushs, mais il ne devrait pas tarder de nous être envoyé. C'est un jeune vidéaste qui est à Londres et qui est en train de nous préparer ce clip.
On a une chaîne YouTube aussi.
Voilà. Ouais, il y a d'autres clips
notre chaîne YouTube, Digitipus Sinazu YouTube, vous trouvez tout ce qu'il faut. Il y a à peu près 5 ou 6 clips qu'on a réalisés des précédents albums. Voilà, j'ai oublié des choses, les gars.
Non, je pense pas, là, t'as tout dit.
Et puis donc il y aura un podcast de cette émission sur les blogs de Radio Canu, pas aujourd'hui parce que les blogs sont en panne et puis il y a un petit peu des problèmes d'organisation d'informatique, donc il y a un podcast qui aura lieu où je mettrai les liens vers le site et le Facebook le plus rapidement possible, je le souhaite. Hein. Sinon peut-être que vous partagerez le lien de l'émission avant si ça met un peu trop de temps. Donc voilà, c'était musique, etc. Première partie avec Digitipus Sinazu et on va se quitter avec un dernier titre. On va écouter quoi ?
Donc Héroïque, le titre justement où pendant le refrain il y a le titre de l'album. Qui a été même le premier titre qu'on a composé, je crois, pour cet album. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci Guillaume.
Merci Guillaume. On aura tenté de se redire au revoir. Mais...
D'accord.
Allez, mais,
ça marche.
Donc on écoute le titre.
Héroïque.
Digitipus Sinazu. Bam 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 b Poussine Nazo avec le titre
Héroïque.
On répète une dernière fois le titre de l'album à sortir peut-être.
Malibu Sheba Wasabi Bleu, voilà. En quatre mots.
Donc c'était musique, etc. Première partie dans le studio, donc il y avait trois des quatre membres de Digiti Poussine Nazo. De ma gauche à ma droite, il y avait Arnaud le bassiste, Bertrand le batteur, Florent le guitariste, et donc un absent qui nous a écouté par contre depuis Paris, Xavier le chanteur que je salue bien, je salue bien tout simplement. Voilà, c'était musique, etc. avec Digiti Poussine Nazo. Rendez-vous sur les blogs de Radio Canu. À très bientôt, Digiti Poussine Nazo.
Merci,
merci à toi, Guillaume.
Générique, et dans un instant, Laurie Pearlson. Trouve Laurie Pearlson, mais pour le moment je vous propose d'écouter une chanson de Lily Lucas, et c'est le charme impénétrable des artistes torturés, c'est de la chanson française Lily Lucas.
J'aime les artistes torturés qui ne vivent que sous les mansardes et qui souffrent d'avoir enduré le poids d'une existence blafarde. Ils cachent sous des lunettes noires leur belle dépression poétique et le charme de leur désespoir les rend profondément érotiques. J'aime les artistes torturés qui ne savent vraiment s'exprimer qu'au son des guitares saturées, les cordes vocales abîmées. Ou quand ils susurrent dans leur micro que la vie n'est rien qu'une salope, comme j'aimerais planter mes crocs dans leurs tendres coudes misanthropes. Oh. J'aime les artistes torturés qui ont reniflé tellement de neige défigurer, leur donnant cet air un peu vintage. J'imagine avec délectation leurs expériences psychédéliques, mêlant drogues et fornication, le tout dans une ivresse phallique. J'aime les artistes torturés, je les aime tant. Si facile à caricaturer, ils m'apportent tout ce que j'attends. La souffrance, la douleur de vivre, l'horreur, la tristesse, l'angoisse affreuse. Ils me donnent enfin la marche à suivre, moi qui suis si banalement, si banalement heureuse.
Voilà Lily Lucas avec le titre Le charme impénétrable des artistes torturés, extrait de son album du même nom. Je vous remets un petit bout de l'identifiant de l'émission et on retrouve tout de suite la deuxième partie de musique, etc. avec Laurie Pearlson dans un instant.